Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
L'Apocalypse est un livre de gloire.
Et
nous continuons cette étude et nous avançons très sérieusement dans cette étude.
Et
il y a beaucoup de richesses, vous en êtes aperçus. Et nous avions vu dans le premier chapitre que Jean reçoit cette vision de Christ glorifié. Jésus qui se révèle d'une façon extraordinaire à Jean. Il a cette vision extraordinaire. Nous avons vu aussi au chapitre 2, au chapitre 3 que Jésus lui donne un message aux sept églises. Nous avons étudié cela. Puis au chapitre 4, je vous rappelle, d'un seul coup, tout va changer. L'église n'est plus là. Et Jean va nous décrire ce qu'il a vu au troisième ciel. La gloire que nous allons voir le jour même, le moment même où nous allons quitter notre corps et aller au troisième ciel. Le trône de Dieu, tout ce qui entoure le trône. Toute la gloire qu'il y a dans ce troisième ciel. Et c'est ce que Dieu nous a mis en réserve pour nous. Au moment même où tu vas mourir physiquement, ton corps va rester ici et ton âme et ton esprit vont partir. Donc nous avons étudié tout cela et nous sommes aperçus qu'effectivement l'église n'est plus là. À partir du chapitre 4, vous ne verrez plus l'église parce que l'église a été enlevée. Au chapitre 5, on voit qu'il y a un livre où il y a sept sceaux, donc scellés de sept sceaux. Et Jean assiste à une scène prophétique. Où on demande, mais qui est digne d'ouvrir ce livre ? Et apparemment, personne n'est digne d'ouvrir ce livre, si ce n'est Christ, l'agneau. Et à ce moment-là, Jean voit dans le ciel cette scène où Jésus va ouvrir le livre des sept sceaux. Et évidemment, les sept sceaux, c'est le début des sept dernières années qui doivent se produire, que la Bible appelle la tribulation. Et nous avons vu que pour comprendre la tribulation, bien, il faut des fondations. Nous avons parlé de l'enlèvement de l'église. Lorsque Jésus va venir chercher son église, les morts en Christ qui sont au troisième ciel vont ressusciter premièrement, nous l'avons vu. Ensuite, nous les vivants, nous serons transformés. Toute l'église de Dieu avec le corps ressuscité et transformé, c'est-à-dire le corps incorruptible, sera à la rencontre du Seigneur dans les airs. Puis nous allons tous aller au troisième ciel. Et là, nous savons qu'il va y avoir le tribunal de Christ, tribunal de récompense pendant sept ans. Nous allons être récompensés pour ce que nous aurons fait. Ceux qui n'auront aucune récompense, nous savons, sont ceux qui seront sauvés comme au travers du feu, nous dit la Bible. C'est-à-dire des gens qui ont été sauvés. Nous sommes sauvés par la foi et par la grâce. Mais des gens qui auront tout juste été sauvés avant l'enlèvement. Ou certains qui n'auront pas bien obéi à Dieu et à sa parole et à sa volonté spécifiques. Ensuite, nous avons étudié le schéma global du royaume de Dieu, parce que vous ne pouvez pas comprendre la fin des temps sans comprendre le royaume. Et nous avons vu la statue de Daniel, Daniel chapitre 2. Et là, nous avons vu la succession des empires, quatre empires. Et nous savons que le dernier empire, qui est l'empire romain, eh bien, va être reconstitué. Et c'est de là où il va y avoir une petite pierre qui va frapper les 10 orteils, on va en parler. Et va faire écrouler toute cette statue qui est l'image des systèmes de ce monde. Système politique, système sociaux, système économique. Tout va s'écrouler. Et la petite pierre, qui est bien sûr l'image de Jésus, va donner naissance à un royaume qui va se répandre sur toute la terre. Et ce royaume va être là, établi éternellement, et ne sera absolument jamais renversé. Et nous avons étudié donc Daniel chapitre 2, puis nous avons aussi étudié chapitre 9 de Daniel. Et là, c'est pour comprendre les 70 semaines d'année de Daniel. Et nous savons que depuis l'ordre du début de la reconstruction de Jérusalem, au 5e siècle avant Jésus, jusqu'au retranchement du Messie, nous l'avons étudié il y a 69 semaines. Semaine d'année, c'est-à-dire 483 ans. Mais Daniel parlait de 70 semaines d'année, il y a encore une semaine, c'est-à-dire 7 ans, qui doivent se produire jusqu'à temps que le Messie prenne possession de la gestion de sa propriété, la terre. Et c'est là où nous verrons après l'entrée dans le millénium. Alors, cette dernière semaine d'année, ces 7 dernières années, ne sont pas continues par rapport à la 69e semaine d'année. Entre la 69e semaine d'année et la 70e semaine d'année, il y a le temps de l'Église. Nous l'avons vu. Ce temps n'a pas été révélé aux prophètes de l'Ancien Testament. La Bible appelle ça dans Éphésiens, c'est Paul qui dit cela, c'est la dispensation du mystère. C'est là où le temps de l'Église, la dispensation de l'Église, la grâce a été donnée par Dieu. Et aucun prophète de l'Ancien Testament ne voyait ce temps de l'Église. Là où Dieu a confié son royaume et la prédication de son royaume à une nation, c'est-à-dire nous, à un peuple, qui emporterait les fruits.
Donc,
Israël a été mis au niveau prophétique en sommeil jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous avons vu que l'horloge prophétique pour Israël s'est arrêtée quand le Messie a été retranché, c'est-à-dire que Jésus est mort. Et recommencera lorsque Jésus viendra chercher son Église. Ces 7 ans s'appellent la tribulation. Nous savons que la tribulation n'est pas l'œuvre du diable, mais l'œuvre de Dieu. Et quand on a continué, on a vu que Dieu ouvre les 7 seaux, Jésus ouvre les 7 seaux, les uns après les autres. Et nous avons vu que ces 7 seaux se succèdent, donc. Et il y a les 6 premiers seaux, je ne vais pas revenir dessus.
Chapitre 6.
Et puis, ensuite, il va y avoir aussi au chapitre
7.
Et à partir du chapitre
8,
il va y avoir le 7e
sceau.
Et le 7e
sceau
est, je dirais, complexe, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est pas un seul jugement qui arrive. Mais c'est une multiplicité de jugements. Et c'est les sept trompettes du jugement de Dieu. Et nous avons vu, donc, dans le septième sceau, la première trompette. Et là, comme je vous le disais, et nous allons vraiment découvrir de plus en plus, Dieu intensifie les jugements sur la terre. Nous avons vu, Dieu frappe très fort. Et il dit aux habitants de la terre, repentez-vous. Nous savons que la tribulation est coupée en deux parties. Les trois ans et demi d'abord, où là il y a déjà pas mal de sauts, pas mal de jugements de Dieu qui descendent. Satan va essayer d'éradiquer la connaissance de Dieu sur la terre, il va le persécuter, ceux qui vont se convertir pendant la tribulation. Et à partir de trois ans et demi, c'est-à-dire la deuxième partie de la tribulation s'appelle la grande tribulation. Et là il y a énormément d'événements qui vont se produire. Dieu va frapper beaucoup plus fort d'abord, mais le diable aussi va essayer de répondre à ces jugements de Dieu. Les deux camps sont l'un contre l'autre, les enfants de Dieu et ceux qui vont servir le diable dans un péché que le monde n'aura jamais connu. Et au début de la grande tribulation, il va se lever un homme qui s'appelle l'Antichrist, qui sera animé par un faux prophète qui sera rempli d'esprit satanique, et ils vont créer un gouvernement mondial et ils vont tout faire pour exterminer, je dis bien exterminer, ceux qui seront nés de nouveau, pour les forcer à renier Jésus, soit les tuer, donc les assassiner dans des souffrances atroces, soit les forcer à renier Jésus. Et un bon nombre vont renier Jésus. Ils vont prendre la marque de la bête, nous allons étudier cela. Et ils vont perdre leur salut et ce sera irrévocable. Nous allons en parler. Donc nous avons vu qu'il va y avoir les six premières trompettes, chapitre 8. Et chapitre 9, nous avons étudié tout cela. Puis la sixième trompette va sonner. Et là, il y a une parenthèse. Nous avons découvert que Jean va avoir un petit livre qu'on va lui donner. Et il sera comme à la fois du miel et à la fois amer. Et je vous ai montré les deux aspects de Dieu. Dieu va écraser ses ennemis parce qu'il veut prendre sa propriété, veut gérer sa propriété avec ceux qui l'auront aimé. Mais aussi, Dieu ne se plaît pas à ce que sa créature, créée à son image, aille en enfer. Mais le péché doit être jugé. La justice de Dieu doit être exercée. Dieu est un Dieu d'amour, mais il juge aussi le péché. Dieu est un Dieu de jugement. Vous trouverez toujours ces deux aspects dans la parole de Dieu du caractère de Dieu. C'est pour ça que nous devons savoir ces choses. Puis chapitre 11. Et là, pour l'instant, nous avons étudié qu'est-ce qui va se passer du côté de Dieu.
Vous
voyez, on étudie les sept sceaux. On étudie les sept trompettes. Pendant le septième sceau, le dernier sceau. Et en fait, on étudie du côté de Dieu qu'est-ce qui se passe. Parce qu'après, à partir du chapitre 12, Dieu va montrer des choses à Jean qui se sont produites, qui vont se produire. Et là, après, on va voir la réaction du diable. C'est pour ça qu'après, à partir du chapitre 13, 14, etc., nous allons voir les réactions du diable. Et après, dans les chapitres encore suivants, nous allons voir que Dieu va réagir une dernière fois et il va la frapper tellement fort que les systèmes de ce monde vont s'écrouler.
Hamakubica bikurikira batwereka inge imana nayo cisubira gakaza ibihano byayo maze ivyisi haragira hantu biratemba.
C'est pour ça que je vous le dis et je vous le répète.
Chokituma ndavuga nkabisubiramo.
L'Apocalypse n'est pas un livre de 666 d'antichrist et de faux prophètes.
Mwumvise gitabo cy'ivyahishura Yohana ntibavuga 666 gusa ntibavuga umuvugishwa ikinyoma ntibavuga igikoko gusa.
C'est vrai qu'il va y avoir cela.
Ego ibyo birimo.
Nous allons d'ailleurs l'étudier.
Ibyo navyo tuzovyiga.
Mais ce n'est pas l'objet de l'Apocalypse.
Ariko siyo ntumbero y'iki gitabo.
Donc là, pour l'instant, vous ne voyez que Dieu qui juge, qui juge, qui juge, qui frappe et qui juge. Et la réaction des hommes. Certains se convertissent. Mais beaucoup renient Dieu et encore s'opposent encore plus à lui. Dieu, pendant cette période, alors qu'il y aura l'Antichrist qui gouvernera d'une façon mondiale, avec le faux prophète, alors qu'ils seront à Jérusalem, que l'Antichrist régnera à Jérusalem, qu'il aura changé la loi, qu'il aura roulé complètement Israël, qu'il persécutera jusqu'au bout tous ceux qui se diront chrétiens et qui forcera tous les êtres humains au maximum, en tout cas au maximum, de prendre la marque de la bête et d'adorer la bête. Dieu va envoyer deux témoins. Nous l'avons vu, deux prophètes. Et ce ne sont pas ni Élie ni Moïse, mais ils vont marcher dans une puissance encore plus grande qu'Élie, encore plus grande que Moïse. Ce que Moïse ont fait pour une nation, c'est-à-dire contre l'Égypte, et pour le peuple d'Israël, ces prophètes seront capables de le faire pour le monde entier. Donc il va y avoir vraiment, vraiment beaucoup de confrontations de puissance. Et nous avions commencé la dernière fois le chapitre 12. Donc à la fin du chapitre 11, la septième trompette va sonner. Et au chapitre 12, Jean va recevoir un certain nombre de visions sur des événements passés, présents et futurs. Parce que le septième sceau, nous l'avons vu, c'est vraiment la finalité des jugements de Dieu.
Donc,
d'un seul coup, dans l'esprit prophétique, d'un seul coup, Jean va avoir comme s'il était placé prophétiquement avec un peu de recul sur les événements. Parce que, je vous rappelle, l'Apocalypse, des fois, nous fixe sur un événement avec beaucoup de précision. Mais je le dis souvent, si vous voulez voir un très grand tableau, une immense affiche devant vous, si vous vous approchez, vous allez voir des détails. Le problème, c'est que plus vous vous approchez, si l'image est vraiment à quelques dizaines de centimètres de vous, vous pouvez voir peut-être le détail d'un pied, d'un bijou, d'une fleur. Par contre, vous allez perdre l'image globale. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit, là, par l'esprit de la prophétie, il y a des moments où il amène Jean vraiment dans les moindres détails. Et puis d'un seul coup, Jean a la grâce de pouvoir avoir du recul sur les événements. C'est exactement ce qui se passe dans le chapitre 12. Alors que là, on était concentré sur ce qui, les sceaux, les trompettes, avec précision. D'un seul coup, Jean va recevoir des révélations sur Israël, sur la chute globale du diable et ce qui s'est passé spirituellement pour Israël. Ce qui va se passer, excusez-moi, pour Israël spirituellement par rapport à son appel et par rapport au temps de tribulation.
mu buryo bw'impuhwe mu kubwa Israeli kubijanye n'ibyo Israeli yahamagariwe hamwe no guhusha kwayo.
Donc nous avions commencé à voir ce que ce chapitre veut dire.
Alors twari twatanguye kubona ibyo iki gice gisobanura.
Et là nous avons vu donc il y avait une femme donc un grand signe apparu dans le ciel, on peut relire du verset 1 s'il vous plaît.
Ah turabona kuva ku murongo wa mbere gice cy'12.
Et on va lire jusqu'au verset 6. Il est dit un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge avec ayant 7 têtes et 10 cornes, sur ses 7 têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Verset 5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Verset 6, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Alors, on va reprendre à partir du verset 1. Et il est clair que la femme ici, ce n'est pas Marie, comme certains ont préconisé, mais bien sûr, c'est Israël. On voit bien que le verset 5, elle enfantera un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône, et la femme s'enfuit au désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Ça n'a rien à voir avec Marie. Vous savez bien que les 1260 jours, ça correspond à quoi ? 3 ans et demi, un temps plus 2 temps et la moitié d'un temps et les 42 semaines.
Ngumugora ahungira mu bugaragwa ahafisa ahantu yateguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburirireyo iminsi 2260. Turazi ko Maria ataho yagiye ngo agaburigweyo iminsi nk'iyo 2260 ariyo cagihe nibihe n'igice cigihe canke ya myaka 3 n'inusu batubwira.
Donc c'est clair que ça n'a rien à voir avec Marie, mais c'est Israël ici dont on parle. Parce que le salut vient des Juifs, je vous le rappelle. Et c'est Israël qui a enfanté le Messie. Bien sûr, c'est venu par la matrice de Marie, soyons clairs. Mais là, c'est sûr que c'est la nation d'Israël dont il est parlé ici. Alors nous avons vu, revêtu du soleil et la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. C'est certainement l'image des 12 tribus d'Israël ou des 12 apôtres. Moi, je pense que c'est plutôt les 12 apôtres de l'agneau. Mais on n'a pas forcément toutes les explications là-dessus. Alors, on sait que Israël va enfanter le Messie au travers de douleurs. Autour de la naissance de Jésus, il y a eu beaucoup de difficultés. Des persécutions sataniques. Vous savez, à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il y a des persécutions sataniques.
C'est-à-dire,
il y a des choses qui ne sont pas naturelles
que
le diable essaye d'envoyer pour quoi faire ? Pour vouloir s'opposer au plan de Dieu. C'est pourquoi nous devons toujours veiller quand Dieu veut faire naître des choses. À chaque fois que Dieu veut faire naître des œuvres, quelles qu'elles soient, il faut bien sûr d'abord que c'est Dieu qui fait naître ces choses.
Et
il faut vraiment savoir se tenir sur la parole de Dieu. Il faut savoir se tenir sur le caractère de Dieu. Et suivre ce que le Seigneur veut faire. Alors ensuite, au verset 3, nous l'avons vu. C'est évidemment le diable dont il est parlé ici. Et il est parlé donc qu'il y avait un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Je vous rappelle que les 7 têtes, bien évidemment, représentent des pouvoirs que Dieu avait donnés au diable avant sa chute.
yerekana ububasha satani yararonse ahawe n'Imana mbere y'ukwagwa.
Ça représente des autorités.
Yerekana ububasha ubutegetsi.
Autorité spirituelle.
Bwo mu buryo bw'impwemo yari afise.
Si vous préférez des pouvoirs.
Canke ububasha uburenganzira yari afise.
Et je vous rappelle que si vous lisez les textes d'Ésaïe 14 et d'Ézéchiel 28,
usomye Yesaya 14 na Ézéchiel 28,
la Bible nous parle que Lucifer, c'est-à-dire ce chérubin avant sa chute,
sanga uwo Lucifero bavuga no kuvuga ngo Satani
uwo yari ces textes-là étaient parfaits en beauté.
Twarasomye ico gisomwa yaratunganye mu bwiza.
La Bible nous dit qu'il mettait un sceau à la perfection.
C'est-à-dire
qu'il était scellé la perfection divine. Et évidemment, là, Jean a une vision d'une représentation du diable ayant cette tête, c'est-à-dire sept pouvoirs très particuliers. Maintenant, bien sûr, ces pouvoirs, il ne les utilise plus pour Dieu, mais pour le royaume de Dieu. Et bien évidemment, il les utilise contre Dieu. Donc rappelez-vous, Satan est une créature. C'est vrai qu'il a une certaine puissance, mais vous n'avez jamais rien à craindre contre le diable. Parce que le Seigneur vous a donné son nom. Et vous ne lui appartenez plus. Donc il n'a aucun pouvoir sur votre vie. Ça, il faut toujours vous en souvenir. Satan a été vaincu à la croix et tu as simplement besoin de marcher dans la foi. Tu as besoin de marcher sur la parole de Dieu pour pouvoir voir la victoire de Dieu. Ne crois jamais des doctrines qui disent que le diable a du pouvoir sur toi, il n'en a aucun. Sauf si tu le crois qu'il a du pouvoir sur toi. C'est pour ça que toutes ces histoires d'enseignement sur les malédictions et sur le diable à droite, le diable à gauche, le diable devant, derrière, dessous et dessus, ça fout la trouille aux chrétiens.
C'est
pas biblique. Et ça les amène à ne pas vivre dans la victoire. C'est vrai que le diable a un certain pouvoir, mais il n'a aucun pouvoir sur ta vie. Maintenant, tu dois avoir de la connaissance. Et tu dois ne pas marcher dans le péché. L'ignorance ouvre des portes au diable. Et évidemment, le péché ouvre des portes aussi. C'est pour ça que nous devons apprendre à marcher dans la connaissance et à marcher dans la sainteté. C'est ce qui fait notre puissance. Et le diable ne peut pas te toucher. Donc fais attention à cela. Il est parlé de 10 cornes. Et évidemment, ces 10 cornes, eh bien, nous allons les voir juste un peu plus loin, au chapitre
13.
Ils vont représenter 10 nations. Alors pourquoi ces 10 nations? Ben, ça reste un mystère. La Bible va nous montrer le chemin, va nous montrer les révélations. Mais c'est clair que là, Jean voit deux choses. Il voit du pouvoir de l'ennemi avec sept pouvoirs particuliers et aussi il voit qu'il va y avoir une association de 10 nations. Alors on peut se douter que Jean n'a pas vu le diable tel quel, mais le Seigneur lui a donné une représentation. C'est ça qu'il faut comprendre. Rappelez-vous que le diable n'est pas un dragon. Ici, il est dit, alors je ne sais pas, c'est traduit en serpent, c'est ça, bon, d'accord. Ici, c'est dragon. Alors dragon, c'est effectivement comme une sorte de serpent, mais avec des pattes, en quelque sorte. C'est ce qu'on retrouve beaucoup. Les dragons, on retrouve beaucoup cela dans les trucs chinois. C'est le symbole le plus utilisé, je crois, avec les Chinois, d'ailleurs. Ils en mettent partout des dragons, dragons, dragons. Donc vous avez compris d'où c'est inspiré. Vous allez trouver tout un tas de symbolismes diaboliques qui sont utilisés dans des cultures qui n'ont pas été touchées par la parole de Dieu. Donc on sait aussi que au verset 4, il est parlé qu'il entraînait un tiers des étoiles, et je vous ai montré que ça, c'est certainement un tiers des anges. On peut largement s'appuyer sur ce texte pour penser que le diable a emmené un tiers des anges avec lui. Et je suis d'accord avec cette interprétation personnellement. Et on a vu que le dragon va se tenir devant la femme, c'est-à-dire devant Israël. Donc Satan se tient devant Israël. Là, il voit des représentations, bien évidemment, des images que Dieu lui montre, qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle aurait enfanté. Et là, nous avons vu effectivement qu'autour de la naissance de Christ, il y a bien évidemment des menaces. Nous savons que le roi Hérode a essayé d'éliminer Jésus. Nous avons vu ce texte.
Hein.
Et dans Matthieu chapitre 2, verset 16, je me rappelle. Alors, maintenant nous allons voir le verset 5, nous allons continuer donc. Et il est dit, verset 5... Elle enfanta un fils, donc Israël enfanta un fils, donc nous savons que c'est Jésus, parce que qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Alors nous verrons que cet aspect où Jésus va régner, et va régner vraiment comme celui qui va paître les nations avec une verge de fer. Ça concerne le millénium. Nous expliquerons ce qui va se passer pendant que Jésus va régner 1000 ans à Jérusalem. Et nous découvrirons qu'il va régner avec une verge de fer, c'est-à-dire que le péché ne sera pas toléré, il sera immédiatement puni et réprimé dans le millénium. Aujourd'hui, le péché sur la terre n'est pas réprimé, il est très largement toléré, il est parfois sanctionné par les tribunaux. Aujourd'hui, ce n'est pas la justice de Dieu qui est exercée sur la terre, c'est la justice des hommes. C'est pour ça que vous voyez beaucoup d'injustices. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites des hommes les uns contre les autres et qui ne sont jamais rétribuées, punies à la hauteur de ce qui a été fait. Je vous rappelle que les systèmes de justice qu'il y a dans ce monde ont été voulus par Dieu pour l'instant pour limiter un peu le péché. Mais c'est loin d'être ce que on vivra au millénium. Mais nous réservons l'explication du millénium pour un peu plus tard. Mais cette partie de verset concerne le millénium. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. J'espère que ce n'est pas trop compliqué pour que vous compreniez tout seul. Nous savons que Jésus est retourné à la droite du Père. Donc vous voyez, Jean voit des choses ici. Il voit des choses qui se sont déjà produites. Donc rappelez-vous, l'Apocalypse. Il y a des révélations aussi sur des choses qui se sont déjà passées, mais aussi des choses qui sont des réalités quand Jean voit l'Apocalypse.
Mais
il y a aussi des révélations futures. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez toujours attention quand vous lisez l'Apocalypse. Ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Toujours dans l'Apocalypse, faites attention et faites la part des choses. Donc ici, le futur, c'est la première partie du verset. Et quand Jean reçoit l'Apocalypse, cette vision, et dans l'Apocalypse, et bien son enfant, donc Jésus, fut enlevé vers Dieu. Donc, lorsque Jésus a été élevé et reparti auprès du Père, nous connaissons ce passage dans les Actes.
Alors, verset
6, il est dit, la femme s'enfuit au désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant
1260 jours.
Alors, évidemment, quand vous voyez 1260 jours, maintenant, vous savez de quoi veut-on parler. C'est les 42 semaines. C'est bien sûr 3 ans et demi. C'est un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, nous savons que ça, ça concerne quoi ? La deuxième partie, la tribulation. C'est 3 ans et demi. Donc, Dieu va protéger Israël. C'est ça que ça veut dire pendant les 3 ans et demi. Alors, ensuite, du verset 7, on va lire à partir du verset 7 et jusqu'au verset 11. Même verset 12, ça va nous aider un peu plus. Alors, il est dit la chose suivante. Il y a une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent. Verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé ou accompli, et la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Verset, on va continuer la lecture, ça serait pas mal, parce que sinon, on va avoir un petit peu de mal à comprendre tout ce contexte. Donc on va relire, on va continuer la lecture, donc du verset 13 jusqu'au verset 18. Alors, il est dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Verset 15. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Verset 16. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Verset 17. Le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en a fait la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Verset 18, pardon, c'est bon, verset 17, ça va, dernier verset. Ok, alors, ici, il y a des choses qui sont faciles à comprendre, d'autres qui sont beaucoup plus difficiles à comprendre. Donc, on va essayer d'aller un peu plus loin dans la lecture. Et puis après, on va essayer d'expliquer par rapport à ce qu'on aura déjà vu. Alors, il est dit au verset 10, parce qu'il est parlé d'une bataille, une bataille spirituelle. Alors, est-ce que cette bataille spirituelle a déjà eu lieu ? Est-ce qu'elle n'a pas encore eu lieu ? Est-ce qu'elle va avoir lieu à ce moment précis de la grande tribulation ? Ben, ce n'est pas facile à dire. Parce qu'on peut se poser plusieurs questions. On voit l'archange Michel qui va combattre le dragon, donc le diable, et ses anges. Donc Jean voit ces choses. Il voit qu'il y a quelque chose de particulier, un combat spirituel qui se crée. Et Michel, ou Michael, ça dépend dans des traductions, il y a différentes traductions, Michael, Michel, qui est un ange qu'on retrouve qui défend Israël. Vous le retrouverez dans Daniel. Lorsque Daniel va jeûner, il y a un ange qui va lui apparaître, c'est l'ange Michel. Et Michel va dire, j'étais empêché par le prince de Perse. Mais au bout d'un moment, j'ai eu du secours et on a gagné un combat. Je
ne
vais pas revenir sur ce texte-là parce que sinon ça va nous demander un peu trop d'explications. Mais ici, on sent qu'il y a quelque chose qui va se produire. Et personnellement, pour moi, il est clair que ça s'est fait. Ça s'est fait pendant la tribulation. C'est ce que j'en vois à l'avance. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, il est dit, donc il fut précipité au verset 9, le grand dragon, le serpent ancien, donc Satan, celui qui est appelé le diable, qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Là, on a l'impression qu'il est... Il n'y a plus de place, hein, au verset précédent, verset 8, il n'y a plus de place dans le ciel pour eux. Alors, est-ce que c'est au deuxième ciel ? Il semblerait que c'est au deuxième ciel. Parce que là, on parle du ciel. Est-ce que c'est au premier ciel dans l'atmosphère ? Est-ce que c'est au deuxième ciel ? Nous savons que ce n'est pas au troisième ciel parce qu'il n'y a pas de démons et de diables qui peut accéder au troisième ciel. Donc, on peut penser que effectivement ils ont été éjectés en fait de toutes ces principautés qui sont là et qui n'arrêtent pas d'influencer les gouvernements de la terre. On peut lire Éphésiens chapitre 6. Pour avoir un peu plus de lumière. En tout cas, ça peut peut-être nous en donner. Maintenant, il est assez difficile, il faut le dire, de forcément donner une interprétation, je veux dire, absolue sur ce texte. Parce que on peut lire au chapitre 6 donc de Éphésiens à partir du verset 10. On va lire un certain nombre de versets ici, mais pour nous éclairer un petit peu sur comment sont organisées les puissances sataniques. Il nous est dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Regardez bien après. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
Kuko abo tunigana tarabinyama na maraso ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi isi y'umwiza n'impwe mumbi z'ahantu ho mwijuru.
Donc personnellement quand on voit la fin là les esprits méchants dans les lieux célestes.
Awosomye ijambo rero ngo n'impwe mumbi z'ahantu ho mwijuru.
Nous savons qu'il y a ce qu'on appelle des esprits qui sont des esprits territoriaux, c'est-à-dire qui gouvernent sur des régions du monde. Nous l'avons vu dans Daniel, il est parlé d'un royaume dédoublé, c'est-à-dire un monde spirituel qui influence le monde physique, visible. Et on sait qu'il y a des esprits qui... Je dirais, ont un pouvoir sur certaines régions du monde. Je vous l'ai montré dans des enseignements précédents, je ne vais pas revenir là-dessus non plus. La Bible dit vraiment dans ce verset 12, les esprits méchants dans les lieux célestes. Je vous rappelle ce que vous voyez avec vos yeux, dans les influences que vous voyez sur les hommes, sur les nations. C'est le reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel et particulièrement dans ces esprits, de l'influence de ces esprits dits qu'on peut appeler des esprits territoriaux, c'est-à-dire qui ont un pouvoir, une autorité satanique d'influencer les hommes de sur certains péchés dans certains endroits du monde. La Bible ne nous donne pas toute la révélation là-dessus, mais la Bible nous donne des éléments de révélation. Et je vous rappelle que ces esprits territoriaux, nous ne pouvons pas directement intervenir
dessus.
Certains ont fait des doctrines là-dessus et ils se sont retrouvés avec de sérieux problèmes. Alors, revenons à Apocalypse. Ici, il semble qu'il y a, quelque chose qui se produit à partir de ces esprits sataniques. Tant que nous sommes dans les temps actuels, depuis que Satan a la gestion de la propriété de Dieu, c'est-à-dire la terre, il a placé ses généraux, ses caporaux et c'est tout ce que vous voulez en haut.
Yara fâché abasirikare biwe ntwaza ngabo nibisongereza biwe
sur des espaces, sur des endroits.
Arabafata arabashira mu birere bitandukanye.
C'est ce qui influence le monde aujourd'hui.
Nibusanga bariko barakoresha isi nabise.
Et là, il y a quelque chose, il y a une immense victoire apparemment.
Alors biraboneka ko habaye
qui est gagné par Michel.
Intsinzi Michael yaronse.
Qui va mettre un tournant et un point final.
Iyo ntsinzi chiba ikije guhindura.
Ah, ce qui va se je dirais à la domination du diable de la, au niveau de la gestion des systèmes de ce monde. Parce que je vous rappelle que c'est d'abord l'issue de la tribulation. L'objectif de Dieu dans la tribulation, c'est de récupérer la gestion
des
systèmes de ce monde.
Et
je vous rappelle que Dieu va frapper les hommes. Mais là, pour moi, cette bataille, c'est la bataille qui va permettre à ce qu'il y ait un point final pour la reprise de la gestion par Dieu de sa propriété. La Bible nous dit donc, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, donc au deuxième ciel. Verset 9, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit la terre. Regardez bien, il fut précipité sur la terre. Il n'est pas dit là pour l'instant qu'il est capturé. Nous verrons que Satan va être capturé vers la fin de l'Apocalypse, une bonne fois pour toutes. Et ses anges furent précipités avec lui. Donc, ils vont être sur la terre et là, ils vont se déchaîner une dernière fois.
Verset 10.
Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, ça y est, c'est accompli. Vous voyez, le point final, voilà. Le salut, c'est quoi? Rappelez-vous que nous sommes sauvés, Jésus nous a sauvés, Jésus a accompli le salut.
Mais
il n'est pas encore pleinement manifesté, ce salut, je vous le rappelle. Je vous rappelle que le salut ne s'arrête pas au pardon de nos péchés. Il commence au pardon de nos péchés. Mais la consommation, l'accomplissement total du salut se fera lorsque Jésus va d'abord récupérer, donc Dieu récupère la gestion de la terre, va régner avec nous pendant 1000 ans, et qu'après il va recréer la surface de la terre pour que tout soit parfait et qu'on règne avec lui d'une façon parfaite dans un monde parfait. Donc là, maintenant, vous voyez, il se passe quelque chose. Après cette bataille, on voit le commentaire du ciel. Maintenant, le salut est arrivé. La puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Il dit verset 11. Ils l'ont vaincu. Alors vous savez, cette parole, on l'utilise souvent pour nous.
Hein,
combien de fois il n'y a pas eu des prédications là-dessus? Combien de fois les chrétiens confessent, Seigneur, merci parce que je l'ai vaincu, nous avons vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage, Seigneur. Et c'est vrai. Mais on oublie de citer le reste du verset. Qui peut dire aujourd'hui? Je n'ai pas aimé ma vie jusqu'à craindre la mort. Vous voyez, parfois on utilise juste un petit morceau de verset parce qu'on trouve que c'est chic et c'est bien. Il y a une puissante vérité ici. C'est vrai que le diable, tu l'as vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de ton témoignage, de ta confession de la foi. Mais si vraiment on veut regarder ce verset, là ça parle des gens qui vont tellement souffrir pendant la tribulation. Que vraiment ils auront un témoignage par rapport à leur foi. Je vous rappelle que vraiment la tribulation et ceux qui seront sauvés pendant la tribulation, ça va être un peu spécial pour eux. Nous avons la grâce pendant des temps où il n'y a pas des trop gros chaos sur la terre. Il y en a, mais ce n'est pas ce que les gens connaîtront sur la, pendant la tribulation. Il y a des gens, et il y en a eu, et il y en aura encore, qui sont tués pour leur foi, même encore aujourd'hui. Il y en a. Mais on ne peut pas dire que c'est mondial. Même dans les pires persécutions que l'Église a connues, ça n'a jamais été mondial. Ça n'était pas région, la persécution. Ça a été des temps particuliers. Des hommes et des femmes sont morts à cause de leur foi. Parce que d'autres leur ont fait du mal. Certains gouvernements ont fait du mal. Où ils ont mis des lois anti-Dieu. Mais d'autres ont pu fuir. Par exemple, les communistes ont assassiné beaucoup de chrétiens. Hitler a assassiné beaucoup de chrétiens et de nouveau. Les empereurs romains ont assassiné beaucoup de chrétiens et de nouveau. Les musulmans aussi, ils le font encore. Il y a toujours eu pendant des temps particuliers des gens qui sont morts pour leur foi. Mais là, cette parole s'adresse particulièrement à ceux qui vont vraiment souffrir pendant ce temps de tribulation parce qu'ils auront donné leur vie à Jésus pendant la tribulation. C'est la dernière chance que Dieu donne à l'homme pour être sauvé dans l'âge, dans les temps où nous sommes. C'est-à-dire tant que Satan à la gestion de la propriété de Dieu. Et cette parole particulièrement s'applique à ces personnes qui, pendant la tribulation, auront donné leur vie à Jésus, auront été persécutés. Beaucoup auront été tellement menacés de mort qu'un bon nombre d'entre eux renieront Jésus et accepteront la marque de la bête. Comme je vous l'ai dit précédemment, ils perdront leur salut. Mais il y en a qui vont rester fermes, qui vainqueront l'ennemi à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, pendant les temps où on leur dira: si tu ne renies pas Jésus, tu seras assassiné tout de suite. Où tous les chrétiens du monde entier seront traqués comme des bêtes. Un certain nombre échapperont à la mort, bien sûr. Et beaucoup seront mis à mort. Juste parce qu'ils refuseront d'adorer la bête. Alors, ensuite, verset 12, il est dit. Regardez bien ce qu'il est dit. Là, on sent que c'est la fin de la fin. C'est la fin de la fin. Il disait: pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux? Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Donc là, c'est le déchaînement. Ils ont perdu une bataille. Satan et ses acolytes là ont perdu une immense bataille apparemment dans le deuxième ciel.
Alors, Satan et Nabobari Kumwebaneshejwe.
Il y a une grande bataille spirituelle dont il est parlé dans les versets précédents. Et là, il est dit: malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Regardez bien, sachant qu'il a peu de temps. Donc Dieu va bombarder la terre, nous le savons. Mais aussi au deuxième ciel, Dieu va bombarder. Et le diable
Satani
va être précipité sur la terre avec ses esprits sataniques de très haut rang, très puissants. Et c'est là où la terre va être immensément agitée par les puissances sataniques. La Bible nous dit bien qu'il est animé d'une grande colère, sachant quoi ? Qu'il a peu de temps. Vous savez que Satan connaît sa destinée éternelle ? Il n'aime pas qu'on dise ça. Sachez une chose. Quand le diable t'accuse, tu peux lui répondre. Comment moi, un condamné à la vie éternelle, puis-je recevoir des accusations de la part de quelqu'un qui est condamné à la mort éternelle? Vous savez que l'ennemi sait très bien où il va passer l'éternité. Ce qu'il veut faire, c'est amener un maximum d'êtres humains avec lui. Frères et sœurs, c'est là où est notre bataille. C'est là où est notre bataille contre les ténèbres. C'est là où doit être notre motivation. Lui est condamné à la mort éternelle et il le sait. Mais c'est très clair, oui. C'est pour ça que la Bible dit qu'il a peu de temps. Donc il va tout faire pour se déchaîner contre les hommes encore. Pour qu'un maximum d'hommes soit emmené avec lui en enfer. Parce qu'il ira, lui, il ira dans le Tartaros précisément, nous verrons ça un peu plus tard, pendant 1000 ans. Et nous verrons que le diable et les démons après iront dans le lac de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Alors il faudra faire attention aux expressions, le lac de feu et de soufre. Il faudra bien faire la différence entre l'enfer, qui pour l'instant est au centre de la terre, nous le savons, et nous verrons que Dieu va faire ressortir les créatures de l'abîme où il y a l'enfer et le Tartaros, et Dieu va juger ces créatures, les hommes qui seront en enfer, et tous les esprits sataniques dans le Tartaros. Mais nous expliquerons cela vers la fin de l'Apocalypse. Donc là, la Bible nous dit qu'il a peu de temps. Alors, à partir du verset 13, on va voir ce qu'il va faire. Là, d'un seul coup, il va y avoir un déchaînement de la part de Satan, particulièrement d'abord contre Israël, qui va vivre encore une protection surnaturelle. Israël subit une persécution satanique. Dieu a permis et a puni Israël, a permis une punition sur Israël à cause de la désobéissance. Mais Dieu n'a jamais permis qu'Israël soit détruit. Et jamais Israël ne sera détruite. Parce que Jésus viendra régner à Jérusalem. Et Israël ne sera jamais détruite. Par contre, tout va converger dans la tribulation pour qu'Israël soit détruite. Quand le dragon vit qu'il a été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Donc d'un seul coup, à nouveau, rappelez-vous qu'entre le temps où l'enfant mâle est persécuté, c'est-à-dire Jésus qui va naître et est persécuté, après il part, il va au ciel, nous le savons. Ensuite, là, la suite, quand on parle ici de la femme et de l'enfant mâle, parce qu'on en reparle à nouveau, là, on parle de pendant la tribulation. Et d'un seul coup, Satan va se déchaîner. Nous allons voir comment un peu plus tard.
Satan a chassé la haguruka kori bikomeye.
Poursuivi la femme, donc Israël qui avait enfanté l'enfant mâle. Donc Israël.
Akurikira wa mugore yabyaye umuhungu ari Israël.
Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât dans les airs vers le lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Donc là, on sait que c'est la moitié de la tribulation. Et là, ça veut dire quoi? Elle est nourrie, elle est protégée. Elle est vers son lieu de protection. Là, on va tout essayer de faire tout essayer pour détruire Israël.
Et
on va voir comment le diable va tromper Israël. On va le voir au chapitre 13. Et ici, on voit qu'Israël est protégé. Et nourri. Ici, il y a quelque chose de spécial. Encore quelque chose de spécial. Et verset 15-16. Il va y avoir quelque chose qui est difficile à expliquer. Mais simplement, on va avoir une adversité. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau. Donc Satan lance de l'eau. Qu'est-ce que c'est que cette eau? On ne sait pas. Comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est la séduction? Est-ce que le diable va s'arranger pour séduire complètement Israël?
On ne
sait pas. Franchement, ça c'est très difficile à expliquer. Verset 17. Il est parlé, le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus.
Kirigira ngo kigwanye abo mu ruvyaro rwiwe basigaye bitondere ibyagezwe n'Imana kandi bafise ibishingira Yesu intahe.
Donc d'un seul coup, qu'est-ce que le diable fait? Il se tourne vers contre qui?
Ako kanya Satana cyakora iki acahindukira?
Contre ceux qui servent le Seigneur.
Abo bose bakorera Imana.
Il se tourne.
Ahindukiriye.
Et il essaye par tous les moyens.
Akoresha uburyo bwose
de persécuter les saints. C'est exactement ce que nous allons découvrir. Nous allons découvrir que plusieurs passages vont nous parler. Comment le diable va tout faire,
et
particulièrement dans la grande tribulation, pour éradiquer la connaissance de Dieu sur la terre. Et il va se déchaîner contre ceux qui se seront donnés à Christ pendant la tribulation. Il est dit ensuite, il se tint debout sur le sable de la mer. Alors, qu'est-ce que c'est que le sable? Eh bien, on ne sait pas exactement. La mer, en général, c'est le symbole des êtres humains, des nations.
Voilà.
On ne peut pas tellement donner d'explications sur l'image que cela représente. Alors, nous allons maintenant introduire le chapitre 13. Et on va commencer aujourd'hui, on continuera la prochaine fois aussi sur le chapitre 13. Donc là, Jean a reçu un certain nombre de révélations sur, je dirais, une image assez globale sur, à propos d'Israël. Israël, nous l'avons vu au chapitre 12, qui enfante le Messie. Persécution autour de la vie du Messie. Et puis, le Messie part au ciel. Puis, il y a cette coupure avec le temps de l'Église. Et d'un seul coup, Jean voit... Pendant la tribulation, qu'est-ce qui se passe sur Israël? Entre-temps, on découvre le diable, le dragon, etc. Immense bataille spirituelle. Et le diable est précipité, et c'est là où il y a une immense persécution. Il essaye de détruire Israël, mais il n'y arrive pas. Et là, il s'en prend au sein du Très-Haut, c'est-à-dire à ceux qui ont donné leur vie à Jésus pendant la tribulation. Et au chapitre 13, Jean va avoir une autre vision.
Et
il va avoir une vision de deux bêtes. Et ces deux bêtes vont être bien sûr l'Antichrist et le faux prophète. Et nous allons découvrir ce chapitre absolument étonnant, mais qui va beaucoup nous éclairer sur cette deuxième partie de la tribulation et comment ça va se produire. En fait, dans ce chapitre, Jean va voir prophétiquement la réaction du diable par rapport au jugement de Dieu. Donc, nous avons vu que jusqu'au chapitre 11, du chapitre 6 au chapitre 11, on voit Dieu qui envoie ses jugements. Les uns après les autres, les sept sceaux. Dans le septième sceau, les sept trompettes. Et pour l'instant, on ne voit aucune réaction du diable parce que Dieu s'est concentré sur « voilà ce que je vais faire ». Et puis, chapitre 11, il nous montre que pendant qu'il y aura la bête et le faux prophète, c'est là où on les voit apparaître. Dieu envoie ses deux témoins. Et là, bon, la bête, le faux prophète, on ne sait pas trop d'où ils viennent ceux-là.
Ben
oui, parce que le chapitre 13 va nous le dire. D'où est-ce qu'ils viennent, comment ils ont été suscités. Puis, chapitre 12, on nous refait un peu une rétrospective et puis aussi certains événements sur le diable, sur des batailles spirituelles, sur Israël et sur Jésus. Chapitre 13, on va parler de ces deux bêtes. Donc, Satan va réagir. Ce chapitre 13 va nous montrer l'avènement de deux bêtes. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que Jean va recevoir avec beaucoup plus de précision et d'explication ce que le prophète Daniel avait reçu 5 siècles plus tôt. 5 et 6 siècles, disons.
Daniel a reçu 5 siècles.
Et évidemment, pour comprendre ces passages du chapitre 13, il va falloir que nous réétudions Daniel, que nous ayons aussi en tête le chapitre de Matthieu 24, de 2 Thessaloniciens, chapitre 2 aussi. Et ça va nous éclairer, c'est là où on va commencer à avoir le schéma de ce fameux Antichrist. D'où il va venir, qu'est-ce qu'il va faire, tout ce qui va se passer avec ce faux prophète que Satan va mettre à côté de lui, et comment il va être, l'Antichrist va être une marionnette manipulée par ce faux prophète. Donc on va relire certains passages pour mieux comprendre. Parce que cet aspect de la bête, cet aspect de quelqu'un qui va devenir un dictateur mondial 100% anti-Dieu, n'est pas une révélation nouvelle. Parce que Daniel en avait reçu pas mal de détails. Mais là, Jean va avoir des précisions sur ces révélations-là et des compléments. Donc, on va juste d'abord lire Apocalypse 13, versets 1 à 10. Puisque ce chapitre va se diviser en deux.
Versets
1 à 10, on va parler de l'Antichrist.
Versets
11 au verset 18, on va parler du faux prophète. Donc nous allons lire la première partie, donc de chapitre 13, versets 1 à verset
10.
Il dit, et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Tiens, 10 cornes, 7 têtes, ça nous fait penser à quelqu'un, le fameux dragon. Tiens donc. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, les noms de blasphème. On va parler de ça un peu plus tard. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Imaginez-vous, y a-t-il une bête qui ressemble à ça ? Non, chaque morceau ressemble à une autre bête. Mais apparemment, c'est une bête assez effrayante. On en parlera. Le dragon lui donna la puissance A et son trône et une grande autorité. Le dragon, qui c'est le dragon ? On sait que c'est le diable, bien sûr. Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. On va expliquer ce que c'est. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Verset 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête. Donc ici, on voit deux types d'adoration. L'adoration du diable directement et l'adoration de la bête. La bête, ça sera l'antichrist, bien évidemment. En disant, qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. Verset 5. Et lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et lui fit donner le pouvoir, l'autorité d'agir pendant combien de temps? Tiens, 42 mois. Vous savez ce que ça veut dire maintenant. Ok. Verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Verset 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Oh, nous allons voir ça dans Daniel plus d'une fois. Et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc ça veut bien dire que cette autorité va être une autorité quoi ? Mondiale. Ok ? Gouvernement mondial. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé. Verset 9, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Verset 10, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. C'est fini, je crois, ou c'était le verset 11, ça ne s'arrêtait pas au verset 11, c'était le verset 10. D'accord. Puis je lui dis, d'accord, c'est ça, jusqu'au verset 10. Alors, ici, on voit cette bête qui, bien sûr, représente un homme.
Alors, tu vois, kino gikoko qui vous voit, mugabo n'umuntu.
Qui va recevoir d'immenses pouvoirs de la part de qui?
N'umuntu azohabwa ububasha ahawe nande?
Du diable.
Na Satan.
Et il voit cette bête d'une façon symbolique.
Abona rero iki gikoko mu buryo bw'ikimenyetso.
Il voit une image. Et il voit qu'elle sort de la mer. Ici, ça veut dire que c'est un homme. La mer, je vous rappelle que c'est très souvent dans l'Apocalypse et dans pas mal de passages prophétiques, l'image des nations, c'est-à-dire des peuples. Donc on sait que c'est un homme. Et lui, il voit une bête effrayante. Et il voit ses 10 cornes. Et les 10 cornes vont représenter 10 nations. Et il y a une de ces cornes qui va être blessée et qui va guérir très rapidement. Rappelez-vous, on parle de très peu de temps ici. 3 ans et demi, c'est très très peu. Et la prochaine fois, parce que là, ça ne sert à rien qu'on lit ces textes-là maintenant, nous reprendrons le chapitre 13. Nous nous rafraîchirons la mémoire sur des passages de Daniel, de Matthieu 24, de Thessaloniciens 2, et vous allez découvrir que les 10 premiers versets du chapitre 13 d'Apocalypse sont très faciles à comprendre. Nous allons voir que Satan va avoir un homme
qui
va créer ce gouvernement mondial. On va parler de 10 nations. On va parler d'une 11e nation qui va venir écraser 3 rois, qui va prendre la tête de toutes ces nations, qui va former un gouvernement mondial. Il y aura à côté de cet homme un faux prophète qui sera rempli de puissance miraculeuse satanique, qui va tout faire pour séduire les gens et les amener à faire une alliance irrévocable avec le diable. Et dans lesquels il y aura des pressions gigantesques sur les chrétiens nés de nouveau.
Pour
qu'ils renient Jésus. Sinon, beaucoup seront assassinés. Beaucoup seront martyrisés. Tués pour leur foi d'une façon les plus horribles. Comme je vous le disais, je vous le répéterai. Un bon nombre vont renier Jésus à ce moment-là. Accepter la marque de la bête. Et perdre leur salut. Donc nous allons découvrir tout cela dans les prochains temps. Que Dieu vous bénisse.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email msburundi@yahoo.fr.